Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes de retour sur Europe 1 dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi et en direct. Alors on démarre maintenant notre partie consacrée aux tendances portée par deux chroniqueurs aujourd'hui. Je commence par vous Nathalie Le Breton, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous allez aider tous les parents qui nous écoutent à mieux anticiper les séparations estivales de nos petits, c'est ça ?
Et avoir en tête qu'on va enfin faire grandir nos enfants et qu'ils vont revenir avec des bonnes manières et grandit.
Et peut-être qu'il va falloir préparer les parents aussi, parce que parfois c'est difficile de leur côté également. Nathalie, vous restez avec nous. On va commencer cette partie avec un petit nouveau. Jérémy Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre expert en bonne manière. Je précise que vous coachez notamment les candidates au concours Miss France. Mais notre sujet aujourd'hui, il n'a rien à voir avec ça. Dites-moi Jérémy, vous êtes invité à des mariages cet été ?
Alors moi, je devrais dire que la saison est ouverte. Et si je suis très juste, je devrais dire ma saison des mariages est ouverte. C'est un métier pour moi tous les ans. Et cette année, petite promo, puisque je n'ai que 7 mariages.
Mais c'est énorme, 7 mariages, j'ai jamais vu ça.
C'est énorme. Je vous promets, cette année, ça va. Mais je voudrais surtout vous dire que la saison des mariages, c'est du 30 mai à peu près au 3e week-end de septembre, avec un énorme pic 20 juin, fin juillet.
Mais ça ne veut pas dire qu'on peut quand même se marier en hiver. C'est poli de se marier en hiver.
On peut se marier quand on veut, mais disons que la saison officielle, c'est plutôt l'été, parce que on préfère être dehors.
Voilà. Alors déjà, première question, Jérémy, est-ce que les fiançailles, c'est encore d'actualité ou c'est complètement has-been ? Si on veut vraiment passer par cette étape, comment bien le faire dans les règles de l'art ?
Alors moi, je suis toujours prêt à faire la fête, donc je trouve que les fiançailles, c'est une occasion en plus dans l'année. Les personnes qui sont attachées au mariage, souvent, se fiancent. Les fiançailles, c'est le compte à rebours, parce qu'à partir du moment où on se fiance, c'est-à-dire que le mariage aura lieu un an après...
Ah, c'est obligatoire ça ?
Globalement, il y a une règle, un an. Les fiançailles sont organisées dans la famille de la future mariée, c'est-à-dire que c'est la famille de la mariée qui va recevoir. La mariée doit s'habiller en parme, plutôt en clair. Le fiancé
pas
va...
en blanc ?
Elle peut, mais on réserve quand même le blanc normalement pour le jour J, le grand jour. Le fiancé va offrir sa bague en tête à tête, ou avant ou la veille. On n'offre pas le bijou
devant
les
familles
autres.
Exactement. Ça,
d'accord. Après, on viendra l'exhiber. On voit ça souvent en Angleterre. On monte la bague de fiançailles comme étant un trophée. Et puis, les invités qui sont aux fiançailles sont les témoins, évidemment, les parents, les amis très proches. On fait un déjeuner. Là, on peut offrir des cadeaux. On s'habille plutôt dans
qui
des
couleurs. Qui offre des cadeaux à
les invités qui viennent.
On peut offrir aux fiançailles. Ça commence à coûter cher. Je préfère qu'on m'invite.
C'est ça. De toute façon, être invité à des fiançailles et des mariages, c'est un budget, je peux vous en parler.
Hein. C'est ça. Bon, c'est le cercle très rapproché, si j'ai bien compris.
Exactement, c'est un cercle rapproché. En revanche, on peut faire une espèce de fête le soir pour inviter ses copains.
Bon, alors avant de se marier, on a généralement envoyé un faire-part. D'ailleurs, si on n'en a pas encore reçu, Julia et moi, cette année, c'est que c'est loupé, on ne sera pas invité cet été, a priori. Hein.
Sauf si le mariage, si on est aujourd'hui, a lieu en septembre.
Ah oui.
Parce qu'il y a une règle très stricte pour les faire-part. Il faut qu'ils arrivent deux mois, jour pour jour, avant le mariage.
Il n'y aurait rien reçu, moi.
Je vais vous en prêter. Deux mois jour pour jour, l'enveloppe n'est jamais cachetée. Vous voyez, on peut ouvrir, qui trouve l'enveloppe pourrait l'ouvrir, parce que si jamais on peut s'opposer au mariage, donc si jamais le marié ou la mariée est un peu, on connaît une histoire un peu,
personne ne fait ça, mais on pourrait le faire.
On pourrait le faire.
D'accord. Vous qui avez assisté à des tonnes de mariages, vous avez déjà vu quelqu'un s'opposer à un mariage ?
Non.
Ouais, voilà.
Non.
Que dans les films. Ouais,
mais en revanche, ce qu'il faut retenir pour le mariage, c'est qu'on répond.
Dans quel délai d'ailleurs ?
Dans les délais. Il y a toujours une date de réponse. On répond à la date qui est indiquée sur le carton. Je vous en supplie, faites une lettre, ce qu'on appelle une lettre de château, on répond par écrit, même s'il y a une adresse mail sur le carton ou un site, parce que ça facilite l'organisation, c'est quand même plus agréable de recevoir une lettre écrite, et on répond toujours à un mariage aux mamans. C'est-à-dire que c'est à la mère de la mariée ou du marié, la famille dont vous êtes le plus proche, que vous allez répondre. Alors, je vous entends, équipez. On parle pas d'argent.
Non, c'est mal poli.
À la maman qu'on répond. Voilà, aux mères.
Mais Jérémy, le jour du mariage, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire ? Parce que j'ai l'impression que j'ai déjà commis des impairs parfois.
Par exemple, sur votre tenue.
Oui,
non, je suis sûre.
Voilà, mais on dit toujours, il faut pas arriver en blanc comme la mariée, par exemple.
Exactement. On évite la couleur blanche ou beige si on sait que la mariée va être dans cette couleur-là. En revanche, il y a des mariés aujourd'hui très modernes qui se marient en jaune, en fuchsia ou en rouge.
Mais on ne sait jamais plus jolie que la mariée ou pas ?
Ah ben voilà, une petite crise d'égo en plein mariage. Justement, on met pas non plus. Moi, je prône les chapeaux parce que ça fait de belles photos, mais si vous n'êtes pas dans le cercle très rapproché, n'arrivez pas avec une soucoupe volante sur la tête.
D'accord.
Il faut savoir garder la distance. Si le mariage est coloré, si la mariée s'habille en couleur, vous ne prendrez pas la couleur de la mariée.
Mais comment le savoir, Jérémy ?
Une indiscrétion, vous pouvez toujours aller un peu...
À la pêche aux infos.
Les femmes, c'est très simple, vous n'arriverez pas non plus pendant la cérémonie religieuse, quelle qu'elle soit, avec un décolleté ou les épaules dénudées, vous mettrez un petit châle, une petite veste.
Pourquoi ?
Parce que pendant la partie religieuse, on
est à l'église, là, évidemment.
On est à l'église. Autrefois, on se changeait le soir pour les femmes. Aujourd'hui, vous pouvez rester habillé de la même façon. Et pour les hommes, si c'est pas écrit smoking ou habit, vous porterez des costumes, messieurs, qui vont du gris éléphant au bleu marine, pas de noir, pas de beige. Et surtout, messieurs, parce que j'en ai trop vu, l'étiquette qui est collée, qui est cousue sur votre manche, c'est pas un blason ni un écusson, ça se découd. Pareil pour la fente derrière de votre veste.
On le voit tout le temps, même dans le métro. Moi, voilà. Je vois qu'il n'y a pas détaché
le fil.
Là,
ouais. On découd. Parce que souvent, on a l'impression que c'est... Il est neuf, mon costume. Non, là, tu as l'air d'un petit plouc.
Bon, d'accord. Ben, voilà. Est-ce que, parce que moi, je m'intéresse aussi aux soirées. Est-ce qu'il y a des astuces à connaître lors de la soirée?
Alors, la soirée, le dîner, etc. Si vous organisez le mariage, mélangez les invités par génération. Ne laissez jamais des couples les uns à côté des autres. Mmh. On laisse seulement les fiancés pendant l'année de leur fiançailles et l'année... un an après leur mariage.
Donc, il faut séparer à peu près deux ans. Si les couples à trois ans, on le sépare.
Voilà, exactement. Et si jamais vous allez à un mariage avec vos maris ou la personne qui vous accompagne, on vous colle pas l'un à l'autre, sinon allez vous faire un tête-à-tête.
Allez, pour terminer rapidement, Jérémy, en termes de cadeaux, donnez-nous des tuyaux, s'il vous plaît, sur le fameux cadeau de mariage.
Toujours l'angoisse, parce qu'il y a toujours le cadeau commun, donc les personnes voient combien vous mettez. On a toujours tendance à mettre davantage sur un cadeau commun que ce qu'on offrirait normalement. Si jamais vous devez mettre de l'argent dans une enveloppe, c'est vous avec votre conscience, mais on met la somme qu'on a envie de mettre.
Il n'y a pas de règle sur la somme. J'avais entendu dire que c'était au moins à peu près le prix d'un repas.
À combien revient le repas?
On ne sait jamais.
Savoir.
Bah, Mélanie, on lui a donné 20 euros pour son mariage. Elle me l'a dit en préparant l'émission.
Une personne a fait ça.
Ouais, c'est pas beaucoup.
Les autres, ils ont été beaucoup plus généreux.
Vous voyez, 20 euros, il faut les assumer. Et si jamais vous faites.
Je précise, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre.
Et si jamais vous faites un cadeau hors liste, vous inviterez les mariés chez vous pour leur offrir. On n'arrive pas avec son cadeau le jour du mariage. C'est un peu pénible.
Ça encombre.
Et si vous faites un cadeau hors liste, il faut vraiment que ce soit une passion pour les mariés, ou alors vous leur offrez quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Si c'est pour leur offrir une théière, autant aller mettre de l'argent sur la liste de mariage.
Ça serait une œuvre d'art, enfin quelque chose qu'on a fait de ses propres mains, par
exactement.
Exemple. Voilà. Eh bien, merci Jérémy pour tous ces conseils qui seront bien utiles à tous ceux qui se marient ou qui sont, comme vous, invités à un mariage prochainement, les Vénards.
À sept mariages.
Au moins maintenant, on connaît les règles. On va se tourner à présent vers notre spécialiste littérature jeunesse, c'est vous, Nathalie Le Breton. Les vacances approchent, évidemment, les enfants se réjouissent, mais pour certains, l'inquiétude monte sourdement quand ils vont partir sans leurs parents, colo dans la famille. Mais heureusement, les livres sont là pour ça.
Mais oui, parce qu'il faut arriver à mettre des mots avec nos enfants et, si possible, anticiper. J'ai quelques bons livres. Le premier s'appelle Lynn et Bulle, première vacances sans papa et sans maman. On est vraiment dans le sujet. C'est sorti chez une maison d'édition qui s'appelle Le gâteau sur la cerise. C'est pour vous dire à quel point c'est pour faire bouger la focale des enfants et un petit peu les déranger. Cette petite Lynn, elle est prise dans ses émotions. À la fois, elle est très contente. On vient de lui apprendre qu'elle va rejoindre ses cousins. Et en même temps, elle se dit, mais c'est terrible, mais je vais pas savoir, mais sans papa, mais sans maman, etc. Que faire? Alors bien sûr, on va vous dire préparer les valises, mettez des petits post-it avec des bisous. Mais ça n'est pas suffisant. Elle va se confier à son lapin. Et son lapin va lui dire, mais tu sais, t'as déjà passé des grandes étapes. Et c'est ça qu'il faut arriver à dire aux enfants. Tu es rentré à la crèche, ça s'est bien passé, t'as eu un peu peur, puis tu es passé ensuite à l'école maternelle. Le bon truc aussi, c'est ce qui va se passer pour Lynn, ça va être d'aller glaner les encouragements de sa grande sœur. Parce qu'elle se dit, oui, d'accord, j'ai su faire ça, mais quand même, me laver les dents toute seule, manger toute seule, je vais pas y arriver. Et donc la grande sœur lui dit, mais facile, trop facile. Et quand c'est gagné, c'est ce qui se passe avec la petite Lynn. C'est quand enfin les parents très justement lui font raconter au petit frère qui est derrière à la fois ce qu'elle va faire, ce qu'elle va apprendre et le plaisir qu'elle va avoir.
C'est génial. Alors justement, à propos de crainte parentale, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi celle des parents divorcés qui vont se retrouver en solo avec leur enfant pour des vacances.
Alors je pense surtout aux papas qui nous écoutent parce qu'il y a quand même beaucoup plus de papas qui prennent longuement leurs enfants et dont l'enfant a été surtout chez la maman. J'ai quelque chose d'hilarant, ça s'appelle Émile en vacances. C'est sorti aux éditions de La Bagnole, une édition québécoise, comme son nom l'indique, un livre de Martine La Tulipe, là aussi c'est québécois, et de Mako. Et c'est super, parce que là on a ce petit Émile, et il nous fait une tronche, mais alors une tronche, excusez-moi Jérémy, les livres enfants sont comme ça, parce que son père lui avait promis des vacances dans un parc d'attractions, et finalement ça se termine au camping. L'horreur. Et là on voit progressivement l'enfant pénétrer dans la forêt et l'air de rien s'émerveiller. Et son père est là de culpabiliser en disant « Non mais t'inquiète pas, je ferai mieux l'année prochaine. Oui, c'est sûr que les guimauves, là, sur le feu de bois, c'est quand même moins bien qu'un hot dog. Mais le gamin, lui, il est trop content d'avoir des guimauves. Et puis quand même, effectivement, cette nuit étoilée, c'est quand même moins bien que la maison ou le train hanté dans la fameuse foire en question. Mais si, c'est fabuleux, il y a des bruits bizarres, on entend des bêtes, etc. » Cet enfant passe des vacances merveilleuses. Et son père lui dit vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, c'est promis, l'année prochaine, on repartira dans un parc d'attractions. Oui. Et là, le gamin de refaire la tronche.
Je veux rester au camping.
Je veux repartir au camping. Ouais. C'est gagné.
C'est sympa pour les papas qui sont inquiets. Mais c'est vrai aussi que ça nous inquiète, ça les inquiète, mais ne soyons pas hypocrites. Au global, franchement, les vacances loin des parents, ce sont surtout, enfin, dans mon souvenir, en tout cas, des sacrés moments et des sacrés, justement, souvenirs en perspective, Mélanie, non?
Oui, je vous reconnais là, toutes les deux. Il faut positiver, mais oui, on ne le dit pas trop, parce que quand même, on veut les faire un peu payer, nos parents. Ouais. Mais on a des bonnes histoires à raconter. C'est l'histoire de Clovis et Oups, Marin d'Odius. Superbe livre, magnifiquement illustré, Aurélie Valogne et François Ravard, sorti au Flammarion Jeunesse. Et là, c'est bien parce que ce Clovis se raconte, il part chez ses grands-parents, et chez lui, c'est la fête. Et c'est doublement la fête parce que le grand-père, il est un petit peu à l'ouest. Et d'un seul coup, dans cette histoire, c'est le grand-père qui est la victime. Alors à chaque fois, c'est des aventures incroyables. Coup de vent, le grand-père perd son slip de bain. Il se retrouve tout nu sur le sable. À chaque fois, il y a une péripétie. À chaque fois, c'est davantage. Et donc, le grand-père va perdre ses lunettes dans l'eau. Après, ils font s'arranger parce que la grand-mère est bien sous tout rapport. Elle a tout anticipé, tout préparé. Et alors, lui, il vit ses aventures avec son grand-père. Ce qui est intéressant, c'est que le grand-père est la victime et pas l'enfant. Vous voyez le changement de focale qui est proposé et il nous raconte, et ce ne sont que des bons souvenirs, le pauvre grand-père. Oh. Il n'aura même pas le droit à sa glace alors qu'il est devenu tout rouge en jouant à la momie sur la plage. Excellent livre.
Merci beaucoup Nathalie. En général, on les retrouve bien grandis, nos enfants, après tout ça. Ça fait très, très, tout drôle en fait.